Elle l'a ouverte en citant un passouk dans Dvarim. On avait dit que le Midrash y prenait ou bien un passouk dans Tehilim, dans Michelet ou dans Dvarim, parce que Dvarim, il a un statut à part parmi les cinq livres de la Torah. Donc là, il amène un passouk qui dit Shima, Shema ami. Shema ami, écoute mon peuple, je vais parler. Et je vais parler. On entend ici, premièrement, que Hachem s'adresse à son peuple, c'est-à-dire il appelle le clan d'Israël mon peuple, et il leur dit, il dit à son peuple, écoute. Bon, il aurait pu dire simplement, il aurait pu commencer à parler. Il s'adresse, on sait, il est au Sinaï, donc le clan d'Israël, il est là, et ils sont là pour écouter. Donc, néanmoins, il lui dit, voilà, je vais parler. Et donc, il faut que vous vous prépariez. C'est-à-dire, on ne peut pas entendre si on ne s'est pas préparé à entendre. La vérité, c'est que tout nécessite toujours une préparation. Quoi qu'on veuille faire, il faut toujours le préparer. On ne peut pas faire les choses comme ça sans aucune préparation. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Rabbi Shimon, il dit, qu'est-ce qu'Hachem leur a dit au peuple d'Israël quand il a annoncé, je vais parler. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, voilà, Eloka ani al kol ba'e olam. Je suis le Dieu de toutes les créatures du monde. Je ne suis pas. Et malgré tout, bien que je sois le Dieu de toutes les créatures du monde, aval lo yichad tishmi ela alechem. Mais je n'ai singulariser mon nom, c'est-à-dire j'ai attaché mon nom uniquement à vous. C'est-à-dire, je me présente comme étant Eloqué Israël. C'est-à-dire, Eni Nikra Eloqué Ovdei Kochavim ou Mazalot, Ela Eloqué Israël. Donc, c'est ça le commentaire. Ouais. C'est avec ça que il a ouvert la discussion sur notre passouk qui est les trois premières lettres, Onokhi, Hashem, Elokecha. Enfin, de dire Hashem, Elokecha, alors on a bien entendu que c'était ça qui posait problème, merci beaucoup, ce Elokecha. D'accord? C'est ce que ça veut dire, ce suis. Si je dis d'Elohim qu'il est mon Dieu, Elokai, comme on dit le matin dans la tfila, Elokai neshama shnatata bi, Elokai, je m'adresse à mon Dieu. Ok, mais mon Dieu, c'est pas le tien, c'est pas le tien, c'est pas le tien. Chacun a son Dieu. Vous allez tous dire Elokai. Donc vous avez, c'est le Dieu de chacun. Et à l'échelle de l'humanité, c'est le Dieu de l'humanité, et néanmoins, Hachem a permis en quelque sorte, ou il s'est restreint, il a admis qu'on le présente comme étant le Dieu d'Israël, ce qui sous-entend et pas le Dieu des autres. De même que quand je dis Elokai, c'est pas le vôtre, et que vous dites Elokai sur le mien, sur le vôtre, c'est pas le mien. Bon, c'est l'okai. Le haï, la terminaison mon Dieu, d'accord? Là, en français, c'est avant, mais le ha, la terminaison, la particularisation de la divinité à celui qui parle, ça fait apparaître que ben, mon Dieu, c'est pas le même que celui des autres. Et donc, à l'échelle collective, le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu. Donc, Hachem, en acceptant d'être appelé Eloqué Israël, il a accepté d'apparaître comme, d'une certaine manière, ne pas être le Dieu des autres. Or, bien sûr qu'il est le Dieu des autres, c'est un Dieu universel, c'est pas, on n'a pas un petit Dieu local, pour la vallée de, etc. D'accord? C'est un Dieu universel. Et néanmoins, il a parti. Donc, il y a ici un paradoxe. Hachem a, si vous voulez, il nous a fait une tova, il a fait au clan d'Israël, il lui fait un cadeau monstre en acceptant d'être notre Dieu, en fait. Alors nous nous disons Elokeinu, Elokeinu velo Elokei avdei kochavim ou mazalot. Il n'est pas. Donc, au fond, c'est ça que le Midrash ici veut mettre en évidence ici. Quand je t'ai dit Elokecha, regarde ce que ça veut dire. Parce que quand on dit, quand Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, il s'adresse à tout le clan d'Israël. Donc, ça peut s'entendre à la fois comme s'adressant à chacun des membres du clan d'Israël, mais aussi à s'adressant au clan d'Israël en le prenant comme une entité, comme une unité. Bon, ils sont devenus un peuple. Voilà, mon peuple, ami. Shema, ami. Écoute, tu es mon peuple. C'est-à-dire, c'est, Hachem a dit, si vous écoutez, souvenez, on a vu ça dans la Roumache, si vous écoutez ma voix, si vous obéissez, alors vous serez mon peuple et je serai. Ah, donc, c'est marqué, vous serez l'âme, vous serez pour moi mon peuple, un peuple, et je serai pour vous l'Elohim. Et ça veut dire, je jouerai pour vous le rôle d'un Dieu personnel, d'un Dieu, dans l'occurrence national. Mais accepter de, c'est un énorme privilège, à la fois de vous considérer, vous, qu'est-ce que vous êtes? Un petit peuple de rien du tout. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire être le peuple d'Hachem? En théorie, si je regarde, c'est quoi cette particularisation? Quand Hachem accepte de mettre son nom sur un individu ou son nom comme Abraham, Yitzhak et Jacob, ou bien de mettre son nom sur un peuple comme le peuple juif, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être le peuple d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire ami? Vous êtes mon peuple. Qu'est-ce que vous diriez? C'est comment, qu'est-ce qu'on peut dire de, si vous prenez l'exemple, c'est peut-être plus facile à comprendre. Prenez l'exemple de quand Hachem dit je suis Eloqué Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que comme il est Eloqué Yitzhak, alors quoi? Ça, il n'est pas le nôtre, alors de quoi on parle? On commence à Shmoné Esrei, Eloqué nous, mais aussi Eloqué Abraham, Eloqué Yitzhak, Eloqué Jacob, quoi, mais et moi là-dedans. On ne dit pas Eloqué, pas. C'est parce que tout est au pluriel. On parle au nom des besoins du clan d'Israël. La prière n'est pas une prière pour soi, mais c'est une prière que chacun fait pour. Parce qu'il est responsable à la fois du clan Israël et aussi du monde en vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eloqué Abraham ou Eloqué Yitzhak? A priori, ça veut dire que si tu regardes Abraham ou bien Yitzhak ou Jacob, ce que tu vois devant toi, ben, c'est l'expression ou une réalisation de ce qu'Hachem veut d'un être humain. Cette personne-là, elle peut dire, elle peut être perçue comme un modèle de ce qu'Hachem veut d'un être humain. Et en théorie, si nous sommes le peuple d'Hachem, ça veut dire que En nous regardant, regardant le peuple d'Israël vivre, on a une image de ce qu'Hachem voudrait que soit un peuple. Bon, ça veut dire qu'il y a encore du travail. C'est ça. Pour être le peuple d'Hachem, il faut écouter sa voix, il faut écouter ses mitzvot. On ne peut pas dire on est le peuple d'Hachem si on ne fait pas la volonté d'Hachem. En quoi est-ce qu'on est le peuple d'Hachem? Et donc, c'est ça qu'il a dit. Ma ami, je te parle, tu es mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que tu sois mon peuple? J'ai accepté d'être ton Dieu. C'est-à-dire d'accepter d'apparaître d'une certaine manière comme n'étant pas le Dieu des autres. Rends-toi compte du privilège, en quelque sorte, de ce que je suis prêt à payer. Si on peut parler de ça comme ça, quand je te dis que je serai ton peuple, tu es mon peuple et je suis ton Dieu, regarde ce que ça veut dire, ce que je suis prêt à payer. Donc, a priori, la question c'est, on n'est pas en train de nous dire la louange d'Hachem ici. Il fait pas, c'est pas une auto-louange d'Hachem, c'est Hachem qui parle. Donc en vérité, s'il nous dit ça, c'est parce que ça implique qu'il y a donc un modèle. Vous avez aussi un travail à faire à la hauteur du travail que je fais moi, et à la limite sur le même modèle. Être le clan d'Israël, ça veut dire ne pas être un peuple comme les autres. Comme Bilam va dire, effectivement. Que le clan Israël, c'est un peuple unique, qui n'a rien de commun avec les autres. Rien de commun, c'est pas rien, mais l'essentiel de sa caractéristique, ou sa caractéristique, est radicalement différente, parce que les peuples, ils ont des différences entre eux. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Les Bnei Israël, ils ont aussi une différence. Non, la différence des Bnei Israël, c'est quelque chose qui n'existe chez aucun peuple. Même tous ensemble, même le dénominateur commun ou le plus grand multiple commun, tout ce que vous voulez, bon, tout ça, le clan Israël, c'est radicalement différent. De même, j'ai accepté hein, donc ne pas être comme les autres. Moi, j'ai accepté de ne pas être pour les autres, un Dieu pour les autres, et vous devez accepter de ne pas être un peuple comme les autres. Pardon? Un modèle, a priori, c'est quelque chose qui sert de point de mire, quoi, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir comme les autres, mais ça veut dire que en tout cas, il y a des éléments. Donc il faut s'inspirer. L'élément fondamental, c'est la caractéristique du peuple, c'est-à-dire il faut obéir à Hachem. Ça ne veut pas dire que les goïms doivent se convertir. Mais eux aussi, ils ont des mitzvot. Alors faites vos mitzvot. Faites les shéva mitzvot des Bnei Noach. On ne vous demande pas du tout la conversion. On ne pense pas dans la Torah que hors la synagogue, il n'y a pas de salut comme les chrétiens disent que hors de l'église, pas de salut. Et nous, on ne dit pas que. Au contraire. Enfin, pas au contraire, mais évidemment qu'un Ben Noir qui joue son rôle de Ben Noir, c'est parfait. On ne lui demande pas plus. Donc, ça, c'est la première lecture, me semble-t-il. de cette lettre, de ce. Non, oui, c'est ça. Amar Rav-Lévi. Alors là, on va voir quelque chose d'assez étonnant en réalité. Ce Rav-Lévi, il dit, Les Dvarim, Shalou Israël, Milifne Akadosh Baruch Hu. Les Israël ont demandé quand Hachem leur dit, Voilà, je suis votre Dieu. Alors ils disent, mais pour que nous arrivions à accepter que tu sois notre Dieu, c'est-à-dire que nous arrivions à te servir, faire ce que nous devons faire, on a deux demandes. C'est-à-dire on demande de l'aide. Aide-nous de la manière suivante. Premièrement, ils ont demandé, chez Iru Kvodo, ils ont demandé à voir la gloire divine. On verra ce que c'est la gloire divine. Ça, c'est un. Et deux, ils ont demandé, Veyishmeu Kolo. Ils ont demandé à entendre la voix divine. Vayuroim et Kvodo, Meshomim et Kolo. Hachem le leur a donné. Ils ont vu la gloire divine. Ils ont entendu sa voix. Et on va apporter les psukim pour montrer que c'était le cas. Mais avant d'aller plus loin, hein, il faut se demander. C'est quoi? Ils auraient pu demander, je sais pas, que fais-nous pleuvoir des pièces d'or ou. Pourquoi ils demandent ça? Quand c'est. Il faut l'entendre comme une demande de tu nous dis, tu veux qu'on soit à la hauteur, qu'on soit ton peuple et qu'on te serve. Bien, nous, on a un problème, en fait. On a besoin d'une aide. L'aide que qu'on te demande, c'est de voir ta gloire et entendre ta voix. Comment est-ce que vous pourriez exprimer cette demande. Qu'est-ce qu'il demande au fond? C'est-à-dire, il demande quelque chose parce qu'il y a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Quel est le problème qu'il n'arrive pas à résoudre et qu'il résoudrait, ou qu'ils disent, on pourra le résoudre si tu nous donnes ça. Quel est le problème?
Bah, c'est une condition.
Pardon?
C'est une condition. On a l'impression qu'ils ont besoin d'être.
Problème de condition. Ils auraient pu mettre n'importe quelle condition. Ils auraient pu demander
Oui.
qu'ils leur fassent des pièces d'or. Qu'est-ce qu'ils demandent de particulier?
Ça, c'est dans le chien.
De?
Ils ont dit contraire. C'est comme dans le chien, dans le chien, les contraires. Ils ne veulent pas, Parce qu'elle fait,
C'est ça. Il demande quelque chose de concret.
Ouais.
Pourquoi il demande du concret? Parce que c'est trop abstrait. J'aime leur demande de croyez en moi, enfin, c'est-à-dire, servez-moi. Mais qu'est-ce que. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Alors manifeste-toi. On a deux organes qui nous permettent de recevoir l'information. C'est la vision et l'ouïe. Bon, bien, on veut entendre. On veut, avec nos deux organes de perception, c'est ça, notre accès à quelque chose d'un peu plus concret, parce que c'est trop difficile. Ça va tout à fait dans la suite de ce qu'on avait vu plus haut. C'est très difficile ce que tu nous demandes. Ben, c'est les Bnei Israël, ils prient. Alors, on se courbe devant quoi? Devant l'air. Donc, on fait bien attention de ne pas se courber ni devant un arbre, ni devant ceci, ni devant tout. Pas du tout. Alors quoi? Je me courbe devant, HM. Nous sommes des êtres humains, on a besoin de voir et d'entendre. Alors, voilà, on veut voir. On comprend bien que tu n'es pas visible, mais on veut voir ta gloire. On veut voir une des manifestations de la gloire divine, la puissance divine, si on veut. Alors, ça va être le son et lumière, enfin, le fond, le feu, la grêle, le machin, des trucs. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'ils demandent à HM? Et HM le leur donne. Regardez, où est-ce qu'on voit qu'il leur donne? Alors, bon, on le voit dans les psukim. C'est marqué Vatomru, Hein, vous allez dire, oui, c'est vrai, Eranu HM Elokeinu et Kvodo. HM, notre Dieu, il nous a montré sa gloire, et Godlo et sa grandeur. Et Urtim, c'est aussi écrit, Vet Kolo Shamanu Mitochesh. Et sa voix, nous l'avons entendue, sortant du sein du feu dans le son et lumière qui a été le Sinaï. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Loyabaem, Koach Mais quand ils ont été confrontés à cette gloire et à cette voix, ben, ils n'ont pas tenu le coup. Ils ne pouvaient plus tenir debout. C'est tellement fort, tellement puissant qu'ils en sont morts. Ils ont dit, on a besoin de ça. Hachem leur a donné. Ils sont morts. Alors le Midrash dit, il apporte d'abord une preuve qu'ils sont morts. Loaya baem koach la'amod, ils n'avaient pas la force de se tenir debout là. Shekivan shebaou le Sinaï, venigla la'em, c'est quand ils sont arrivés au Sinaï qu'Hachem s'est dévoilé à eux, parcha nishmatam. Leur âme s'est envolée. Ils sont morts. Pourquoi? Al shedibber imahem. Parce qu'il a parlé avec eux. C'est marqué dans Shir HaShirim. La princesse, donc le clan Israël, dit Nafshi yatsa bedabro. Mon âme est sortie quand il m'a parlé. J'ai fait une expérience telle que mon âme est sortie. Ok, alors résultat des courses, c'est quoi? Ben voilà, le peuple a demandé quelque chose, Hachem lui a donné, ils sont morts. C'est un super résultat. Pardon?
Est-ce que c'est pas de la part des gens qui demandent soit naïve ou encore est-ce qu'ils sont pas mesurés
Ils n'ont pas mesuré ils n'ont pas mesuré. Ok. La question que le Midrash va poser un petit peu plus bas, c'est pourquoi Hachem leur a donné, ils savaient bien que s'ils ne pouvaient pas le supporter. Alors la question, elle va être posée dans une réponse. Mais avant ça, hein, vous savez bien que quand ils ont entendu la première parole, on a déjà vu, ils ont été projetés en arrière, ils sont morts, mais ils ont ressuscité. Mais comment ça se fait qu'ils ont ressuscité? Ils ne pouvaient pas tenir le coup, ils sont morts. Quand on meurt, on meurt. C'est quoi la résurrection en question? Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a permis cette résurrection? On va regarder la suite.
Mais Rav, pourquoi toutes ces précautions alors dans la paracha où à plusieurs reprises Hachem demande à Moshe de faire très attention, qu'il ne monte pas sur la montagne, qu'il se soit même peut-être retiré parce qu'il risque la mort?
Oui, Hachem leur a dit ça, mais d'un autre côté, ils ont dit on a besoin de ça.
On a
Monter
besoin
sur
de
la
ça.
montagne, c'est pas l'interdit de monter sur la montagne, c'est pas parce qu'ils en avaient besoin, c'est qu'ils auraient été attirés comme quelqu'un qui, on va aller voir ce qui se passe, comme toutes les voitures qui s'arrêtent quand j'en vois qu'il y a un accident, les gens ils bloquent la circulation pour aller voir, je sais pas quoi, voir combien il y a de morts, pas enfin, c'est pas pourquoi ils passent pas leur chemin, quoi. Ça, c'était monter sur la montagne. Mais ça, ils l'ont demandé parce qu'ils en avaient besoin. Ils ressentaient un besoin. La montagne, c'était pas un besoin, c'était une attirance. Mais là, c'était un besoin. Alors, attendez, je vous ai dit, si vous êtes sage, on arrive à arriver jusqu'au bout, alors vous verrez la question et la réponse. Mais en attendant, ils sont morts. Avant la Torah, Biksha Lehem Rachamim, Bilifnei Akadosh Baruch Hu. La Torah a prié pour eux. Elle a demandé que Hachem fasse acte de tendresse et qu'il redonne la vie. Alors, elle a utilisé un argument. La Torah a utilisé un argument. Elle a dit, Yesh Meler, Passi Bito, Veoregan Shebeto. Est-ce qu'un roi peut, le même jour donc, marier sa fille et tuer tout le monde? C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire marier la fille? Matan Torah. On est à Matan Torah ici. Matan Torah, c'est un mariage. Comme dit le Etz Yosef, par exemple, vous avez dans la colonne de droite, il dit, Chez Torah, chez Nitnal Israël, la Torah qui à ce moment-là est donnée au clan d'Israël, cette Torah, i kevat meler, sheniset la Baal. C'est la femme, c'est la fille du roi qui se marie avec son mari. Alors ici, ce mariage-là, qui a lieu au Sinaï, c'est le mariage de la Torah, qui est la Kala, avec le clan d'Israël, qui est ici vu comme le mari. C'est-à-dire, le clan d'Israël, dans ce mariage-là, il est vu que le mari, comme le mari. On dit aussi qu'au Sinaï, c'est un mariage entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le clan d'Israël, c'est la Kala. Et Akadosh Baruch Hu, le Khatan. Donc, selon qu'on regarde les choses d'une manière ou d'une autre, le clan d'Israël, ou bien il est l'homme, le mâle, c'est-à-dire en fait, par rapport à la Torah, bien sûr, il s'agit de pénétrer la Torah, il s'agit de s'occuper de la Torah comme un mari s'occupe de sa femme. Dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, on est le récepteur, Hachem qui donne, qui donne, qui donne, et donc on est récepteur, donc on a le côté féminin. Donc, qu'il y ait dans le plan d'Israël à la fois un côté masculin et un côté féminin, vous voyez, ça correspond à ce que, il y a en tout cas un courant dans le plan d'Israël, courant important, si vous voulez, qui est que, qui pense que tout est à la fois masculin et féminin. Mais pas simplement il y a du masculin et du féminin. C'est que dans chaque masculin, il y a du féminin, dans chaque féminin, il y a du masculin. C'est presque comme des fractales, si vous voulez. Donc, quelle que soit l'échelle à laquelle on fait les choses, il y a toujours à la fois du masculin et du féminin. Tu regardes le masculin, il y a du masculin et du féminin. Et dans le masculin du masculin, il y a aussi du féminin. Et dans le masculin du masculin du masculin, il y a aussi du féminin. Et dans le féminin du masculin, comme dans le féminin du féminin, il y a du masculin. Et donc, ça a débouché, c'est les kabbalistes qui vont jusqu'à dire que ça remonte à un certain niveau de la divinité aussi. Ça remonte pas obligatoirement jusqu'à, je sais pas en tout cas, il y en a, ça c'est dans la Kabbale, je crois que c'est une discussion, mais qui veulent dire que ce principe masculin-féminin, c'est ce que les Sfaradim disent, les Chassidim disent quand, dans la prière. Avant de faire une mitzvah, ils disent le Shem Yichud Kudsha Brichu Krimte. C'est-à-dire, la mitzvah qu'on va faire, elle va réaliser l'union d'Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina. C'est-à-dire, c'est une union toujours du masculin et du féminin. Avec quelque chose qui est le féminin, c'est-à-dire la Shrina, c'est le féminin de l'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a un autre groupe de gens qui se refusent à dire ça. A priori, les Ashkenazim, ils n'ont pas accepté ça. Mais les Sfaradim, Chassidim, ils disent ça normalement avant de faire les mitzvot. Avant de mettre les tefillin, avant de mettre le. Ils disent ça. Il y en a qui se refusent à dire ça. Ils ne veulent pas avoir une figure féminine. Parce que, comme, bien sûr, personne ne pense qu'il y a une dualité, il y a deux divinités, une masculine et une féminine. Mais une figure féminine, un aspect féminin de la divinité, je sais pas comment il faut dire, mais c'est le yichud des deux, c'est quand vous dites le Shem yichud, le yichud, ça veut dire l'union, comme l'union physique, quoi, en quelque sorte, bien sûr que ce n'est pas physique, puisque c'est la kadosh baruch hu d'un côté, et de sa, la Shrina de l'autre. Alors peut-être on peut faire une espèce de. Je crois qu'il y a. C'est pas. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça, donc. Je n'ai jamais vraiment regardé la question. Mais. Peut-être que c'est vrai au niveau de la Elakout, mais pas au niveau de la Shemtion. Si on considère que Elakout, c'est pas Hachem, c'est Hachem ou Elohim, mais pas Elohim ou Hachem. Bon, je ne veux pas entrer dans plus là-dedans, mais on pourrait penser, c'est ça, il y a ce double mariage en quelque sorte, à la fois entre la Torah et Klal Israël, et entre Akadosh Baruch Hu et Klal Israël, et qui fait jouer au Klal Israël un double jeu. Par rapport à la Torah, ils sont le côté masculin, et par rapport à Hachem, ils sont le côté féminin. Donc la Torah, elle a prié, elle a obtenu le résultat en disant, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est mon mariage avec le clan d'Israël, et tu as tué non seulement mon Khatan, mais tout le monde, quoi. Khatan aussi, le Klal Israël c'est le Khatan. Donc si les bénis Israël sont morts, c'est le jour de mon mariage qui a tué tout le monde. Du coup, Akadosh Baruch Hu a entendu l'argument. Ce qui peut se dire aussi d'une autre manière, Kol ha'olam kulos mechim, le monde entier est en joie, uvanech hametim, et tes enfants ils meurent. Miyad chazra nishmatam. Immédiatement, les neshamot sont retournés à l'intérieur des corps. Comme c'est marqué dans Tehilim, que la Torah, Torah d'Hachem tmima, la Torah d'Hachem, elle est parfaite, elle est meshivat nafesh. Elle restitue l'âme, le nefesh. Ça. La Torah, donc, elle s'est fait l'avocat de la situation, elle a sauvé son partenaire, le clan d'Israël. OK. Donc maintenant, tout va bien. Les Bnei Israël ont expérimenté, ils en sont morts, mais ils ont ressuscité grâce à la Torah. Ça veut dire que vivre, que pour vivre, si vous voulez, on a besoin de la Torah. Et du coup, ça veut dire que la Torah, elle permet de ne pas mourir à entendre la voix d'Hachem et à voir la gloire divine. C'est comme si la Torah était une espèce de filtre qui permet aux hommes d'avoir la bonne relation avec Hachem. Une relation qui permet de voir et d'entendre d'une certaine manière. Elle permet aux hommes d'être des hommes et d'entrer en relation avec Hachem. C'est seulement possible par la Torah. Si on essaie de court-circuiter la Torah, d'aller directement faire une expérience directe de relation avec Hachem, on en meurt. Pas viable, quoi. Je sais que certains veulent expliquer. Vous savez l'histoire des quatre qui sont entrés dans le Pardès. Donc, seul Rabbi Akiva est sorti indemne. Dans les trois autres, il y en a un qui est mort, un qui est devenu quasiment fou, et un troisième qui a coupé les plantes, comme on dit. C'est Acher qui a, il a laissé tomber toute la Torah, quoi. Parce que c'était une expérience trop directe. Mais Rabbi Akiva, qui était suffisamment imbibé de Torah, lui, il a tenu le coup. Les autres, qui étaient très, très énormes en Torah, sinon, ils n'auraient pas pu même essayer une telle expérience. Mais bon, chacun, à sa manière, n'a pas tenu le coup. Il y a trois manières, c'est-à-dire bien mourir, ou devenir fou, ou alors devenir apicoresse. Donc ça, c'est un deuxième aspect, en quelque sorte, de cette relation avec Hachem, c'est-à-dire que on a commencé dans ce numéro 4, commencé par le problème ce qu'Hachem fait pour nous, quoi, pour que nous puissions être son peuple. Est-ce qu'il et du coup, si nous on dit OK, tu veux qu'on soit ton peuple, voilà, toi tu as fait ça, mais tu veux le faire. Mais ce que nous devons faire, c'est trop abstrait. On a besoin de quelque chose de plus concret. Mais le plus concret, c'est quelque chose qui nous tue. Tout ça, ça marche pas parce que ce sont des relations directes avec Hachem. Si on en passe par la Torah, alors la relation est possible. La Torah, c'est le moyen, c'est un des moyens par lesquels la Torah de beaucoup se fait connaître aux hommes. Hachem se donne à connaître par la nature, par les mitzvot, par l'étude, par la Torah. Alors maintenant vient la question que vous avez envie de poser, que vous avez posée. Amar Rabbi Lévi, Vechi lo haya galui lifnei hamakom, Shemi umare kvodo leYisrael umashmian kolo, Sheinan yicholim Est-ce qu'Hachem ne savait pas que les Bnei Israël ne pouvaient pas supporter ce dévoilement de sa gloire et de sa voix? Comment se fait-il qu'il ait accepté? J'aime évidemment savoir que ça allait mal tourner. Pourquoi il a accepté? Alors, on pourrait répondre que ce qu'Hachem voulait, c'est Hachem voulait que ça en passe par la Torah. Hachem voulait que les Bnei Israël comprennent qu'il faut passer par la Torah pour réduire ce. Ok, c'est trop abstrait. Mais pour que ça soit concret, le concret, c'est la Torah et les mitzvot. C'est comme ça qu'on peut connaître Hachem. Essayer de le connaître par des manifestations d'Hachem, ça n'est pas possible aux hommes. On ne tient pas le coup. Par contre, avec la Torah, ça va. Merci. Mais c'est pas ça que le Midrash répond. Le Midrash répond, ce Rabbi Lévi répond, et là, Safa Kadosh Baruch Hu, Shein Atidin la Sot Avodat Kochavim. La Kadosh Baruch Hu a bien vu, il sait évidemment, que les Bnei Israël vont pratiquer l'idolâtrie. Voilà, ils vont pratiquer l'idolâtrie. Si on leur reproche l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Bon, c'était tellement dur qu'on avait besoin de quelque chose de plus concret. Et ils vont dire, si tu nous avais donné du plus concret, on n'aurait pas fait l'idolâtrie. On n'aurait pas eu besoin d'en passer par l'idolâtrie. Alors, si on leur a donné, voilà, vous voulez du concret? Voilà. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire, c'est fini. Les Bnei Israël ne peuvent plus dire, si on a pratiqué l'idolâtrie, c'est parce que c'était trop abstrait. Et si tu nous avais donné accès à ta gloire et donné accès à ta voix, ça aurait été concret, on n'aurait pas pratiqué l'idolâtrie. Pour qu'ils ne puissent pas dire ça, il leur a donné. Je vous le donne. Bien sûr que ça ne va pas marcher, mais vous ne pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas donné. C'est-à-dire, en fait, si on entend bien, ça veut dire que ils avaient dit ça pour justifier l'idolâtrie, alors ça ne permet pas l'idolâtrie, mais ça réduit énormément la gravité de l'idolâtrie. En disant que tu aurais dû nous donner quelque chose de plus concret. S'ils avaient pu donner cet argument-là, alors surtout, c'est pas du tout qu'on a voulu se révolter contre toi. À la limite, on peut presque dire, vous savez, les goyim, ils pensent que l'humanité, elle a commencé par l'idolâtrie. Et que petit à petit, on s'est éloigné de l'idolâtrie. Éventuellement, on est arrivé à une forme de monothéisme. Et puis ensuite, on est arrivé à la Torah. C'est peut-être le chemin dit trop. Pardon? C'est Abraham qui s'est coupé de l'idolâtrie et qui a fait une partie du chemin, mais ses descendants sont retombés dans l'idolâtrie en Égypte. Donc, il a fallu plus recommencer. Avec le don de la Torah, etc. Bon, on peut voir une progression à partir de l'idolâtrie vers la Torah. Mais la Torah, elle ne pense pas comme ça. Adam Harishon, qui a été créé par Hachem, il connaissait Hachem. Donc les premières générations, elles étaient proches d'Hachem. Mais elles se sont lentement éloignées jusqu'au Maboul, jusqu'à la tour de Babel. Et il y a même une image qui est donnée, qui dit que entre Adam Harishon et Abraham, c'est-à-dire en 20 générations, 10 jusqu'à Noé et 10 de Noé à Abraham, en 20 générations, l'humanité a repoussé Hachem qui était présent dans le monde, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'on appelle le septième ciel. En français, le septième ciel, c'est le bonheur absolu. Dans la Torah, le septième ciel, c'est l'éloignement maximum d'Hachem. On ne va pas plus loin. Le septième ciel, c'est la génération de la tour de Babel. Et à ce moment-là, arrive Abraham, qui commence la redescente. Abraham fait redescendre Hachem du septième au sixième, Yitzhak, 6, 5, Yaakov, etc., jusqu'à Moshe, 1, 0. On a ramené la présence divine sur Terre par le biais du Mishkan, etc. Les premières générations, comment, puisqu'on est parti de d'une connaissance d'Hachem, comment est-ce qu'on a dévié? Ils étaient grands, les premières générations, c'était une super tête, tout ce que vous voulez. L'idolâtrie, vraiment, elle a commencé avec Hanoch. Hanoch, c'est la septième génération depuis Adam. Quand ça a commencé? Ça a commencé justement comme ça. Ça a commencé par le fait que les hommes ont voulu créer une relation avec Hachem. Pourquoi? En partie parce qu'ils se sentaient redevables. Ils sentaient que voilà, Hachem nous a donné un monde, etc. Et donc, il faut exprimer sa reconnaissance. Mais à Hachem, on ne peut pas lui envoyer des paniers de pourim de ça. On lui a envoyé des bouteilles d'occasion. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont résisté pendant un certain temps. Et puis après, ils ont décidé que puisqu'on ne peut pas honorer Hachem directement, on va l'honorer en honorant ses serviteurs. C'est-à-dire, les cadeaux, on va les faire au concierge. On n'a pas accès au propriétaire, mais on va au gestionnaire, si vous voulez, si concierge, ça ne vous plaît pas. On va faire les cadeaux, mais tout en pensant, ce qu'on fait là, on le fait pour Hachem. Comme on a besoin de s'exprimer, mais on ne peut pas s'exprimer par rapport à Hachem, donc on s'exprime par rapport au serviteur. Mais à ce moment-là, ils pensaient que les serviteurs étaient vus seulement comme le concierge de, pas du tout. Et petit à petit, ça a dévié et c'est devenu une idolâtrie au sens où, au concierge, on lui a donné une autonomie. On a considéré que le soleil n'était pas simplement un serviteur d'Hachem, mais qu'il avait une autonomie. Il pouvait envoyer sa chaleur et son énergie ou peut-être refuser. J'ai été élevé dans une école pilote de Cagé, dans de la Gaule. Nous, dans mon école, on a planté des tournesols. Et ensuite, on appelait ça, ces fleurs, on l'appelait les soleils. Et quand elle fleurissait, on chantait beau soleil, comment faites-vous pour avoir des fleurs si belles, etc. On fait ça avec, je me rappelle encore, c'est pas d'hier. Hein. Mais ça, c'est sûr que quand on réfléchit, on comprend très bien qu'on ait envie d'adorer le soleil si on. Quand tu réfléchis tout ce que le soleil nous donne, envie de dire merci au soleil, non? Si on ne savait pas que l'expérience qu'on fait, c'est l'expérience d'un soleil qui un jour dit oui, un jour dit non. Des fois, le soleil, c'est trop chaud et des fois, c'est pas assez chaud, etc. C'est des expériences. Donc, alors ne dites pas que j'ai dit aux chiots qu'il fallait adorer le soleil. Ça fait pas bien pour les chiots. Mais non, je dis seulement que on peut très bien comprendre. Hein, il faut très bien comprendre qu'on adore le soleil. Bien sûr que même en comprenant que le soleil, comme on raconte toujours, ouais, ils ont pensé que c'était le soleil, après ils ont vu qu'il y avait la nuit, il n'y avait pas de soleil, mais on peut bien voir que le lendemain, il y avait de nouveau du soleil. Donc, savoir que c'est quelque chose qui est positif à un certain moment, puis tu fais une pause, parce qu'il est fatigué, il faut que l'on se repose, je ne sais pas quoi. Et puis le lendemain, il est de nouveau tout frais, il peut de nouveau nous envoyer sa chaleur, son énergie, etc. Seulement, déjà, la manifestation de la reconnaissance au concierge, pour nous, c'est déjà de l'idolâtrie. Pour les goïms, ce n'est pas encore de l'idolâtrie. Pour les goïms, ça n'est de l'idolâtrie que quand ils leur attribuent une autonomie. Quand ils pensent que les planètes décident. Nous, de reconnaître qu'il faut reconnaître que les planètes jouent un rôle, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde sait que les marées, elles dépendent de la Lune. Je veux dire, tu peux pas, tu vois bien de tout ce qui dépend du Soleil, etc. On voit bien que ça dépend. Mais il n'y a pas lieu de les remercier parce que c'est simplement les serviteurs qui font le travail, le job qui leur est assigné par un fameux beaucoup, c'est tout. Et donc c'est pour ça que la prière, on la fait uniquement à Kadosh Baruch Hu. Bien que dans notre prière, nous disions aussi Elokeinu, Elokeavoteinu, etc. Mais la tfila, elle est pour Hachem. Baruch Ata, Hachem, il n'y a pas Baruch Ata Elokeinu. N'y a pas de Korban l'Elokim. Il n'y a pas de Korban l'El Shakai. Il n'y a pas de Korban le Rachum. Korban l'Hachem. Tétragramme, seulement ce tétragramme-là. Il n'y a même pas de Corban l'Adon. D'accord? On ne peut pas non plus. Pas Corban l'Adonai, si vous voulez. Adonai, ça veut dire mes seigneurs. C'est comme s'il y avait en hébreu la forme polie, en fait. S'adresse, le roi, il parle au futur, quoi. Au pluriel, pardon. Nous. Et donc, l'idée, c'est que s'ils avaient dit, on a pratiqué l'idolâtrie, mais c'était à notre corps défendant quasiment, on ne pouvait pas, on avait besoin d'entrer en relation avec toi, et ce n'était pas possible, parce que tu nous as rien donné, on pouvait s'accrocher à rien du tout, si tu nous avais donné accès à ta gloire, à ta voix, etc. Alors là, on aurait pu. Jamais je vous l'ai donné. Bien sûr que c'est pas bon pour vous. C'est pour ça qu'a priori, je vous l'aurais pas donné. Mais comme vous allez l'utiliser pour justifier la l'avodah zara, je suis obligé de vous le donner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? L'avodah zara, on l'a fait quand même. Non, mais peut-être que c'est une aide. Parce qu'en réalité, au départ, on n'était pas prêt à pratiquer l'idolâtrie. Mais on voulait seulement. L'idolâtrie qu'on a faite, c'est seulement parce qu'on avait besoin de parler avec Hachem, en quelque sorte. Alors, si on dit, vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça veut dire que si tu veux faire l'idolâtrie, tu dois assumer que c'est l'idolâtrie bête et méchante, quoi. En quelque sorte. Complètement idolâtre, sans aucune excuse. La bonne excuse, elle est là, mais je n'ai pas enlevé la possibilité de l'utiliser. C'est une aide. Ça veut dire, sache que ne le fais pas, parce que les bonnes excuses que tu pourrais te donner n'existent pas. Donc ça peut être vu comme une idée, comme une aide. Ça nous a aidé en disant, ne pratique pas l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Alors, qu'est-ce que dit ce Midrash dans sa totalité? D'un côté, il y a ce qu'Hachem a fait pour les Bnei Israël, donc il a accepté cette caractéristique d'être le Dieu d'Israël et peut-être pas, et donc d'apparaître peut-être faussement comme s'il n'était pas le Dieu de l'humanité entière. Y a toutes sortes de théories qui disent que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu local qui est devenu dit que les d'Israël par la suite. Ils discutent à quel moment, etc. On en a fait un Dieu universel. Mais au début, c'était un Dieu, je sais pas quoi, volcanique, c'est pour pas qu'il met en colère, etc. les théories de la critique biblique, etc. Ils veulent se l'expliquer, quoi. Mais s'il est le Dieu d'Israël, c'est vrai qu'a priori, ce n'est pas un Dieu universel. C'est contradictoire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'Hachem a accepté de faire ça pour nous. Il est un Dieu universel, le Dieu de tout le monde. Il a accepté cette chose qui, à la limite, se retourne contre lui. Il a accepté d'être considéré comme le Dieu d'Israël. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les Bnei Israël ont ressenti la nécessité de demander quelque chose de plus concret. Aide-nous, en quelque sorte, à se servir. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'Hachem a pu accepter de leur donner quelque chose dont ils savaient que ce n'était pas bon pour eux? Parce que, à la limite, c'est pas seulement que c'est pas bon pour eux. C'est que ça marche pas. Tout le plan divin est fichu. D'accord? Quand c'est le mariage de ta fille, mais tout le monde est mort. Banecha, ceux qui sont tes filles, tes enfants, le clan d'Israël, il est mort. Donc le plan divin, il est à l'eau. Ça sert à quoi de céder pour qu'ils puissent, comme, c'est parce qu'ils vont dire, OK, mais ça marche pas. Donc, bien entendu, il faut dire que Hachem a pris en compte que la Torah va, non, c'est la, pourquoi c'est la Torah qui dit à Hachem, c'est un scandale? Pourquoi Hachem dit pas de lui-même, bon, je vous ai fait ça parce que vous vouliez, mais en fait, je vous montre que c'est pas bien, et donc, voilà, vous avez une deuxième chance. Je vous redonne la vie, etc. Parce que bon, il fallait que vous expérimentiez que ce que ne vous donnais pas, c'est parce que vous ne pouviez pas le supporter, et pas parce que je ne voulais pas vous le donner. Non, bon, Hachem voulait qu'on en passe par la Torah. C'est le don de la Torah ici. C'est-à-dire, c'est le don de la Torah. La Torah, elle était là. Abraham Avinu, il avait la Torah. La Torah, elle est là, c'est le plan du monde. Donc, elle est dans le monde, elle est en nous, la Torah. Non, on n'est pas arrivé à faire le travail qu'Abraham Avinu a fait. Donc c'est pour ça que ça a échoué complètement. Donc, il faut recommencer, mais cette fois-ci, on nous donne la Torah. C'est-à-dire, on nous donne justement cette possibilité d'avoir un lien avec Hachem. Un lien plus concret avec Hachem. C'est pour ça que la Torah est très très concrète. C'est plein de mitzvot. Il est bien clair que Hachem, comme dit le Midrash, ça lui fait ni choix. On fasse la shrita du côté de la butte. On ne peut pas s'imaginer qu'Hachem, ça lui fait quelque chose. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Simplement, Hachem nous a donné des mitzvot. Et ces mitzvot, Hachem a fait, il a créé un monde dans lequel les hommes sont partie prenante grâce aux mitzvot, en faisant les mitzvot, en faisant les hommes deviennent les alliés d'Hachem, mais avec des gestes très concrets. Des choses très, très, très concrètes. Trouver un loulav, sonner du shofar, c'est des gestes très concrets. Faire la mila, etc.
Brave.
Ces gestes prêts, effectivement, Hachem a dit, je leur donne une valeur. Puisque c'est moi qui vous l'impose, donc quand vous faites ça, vous faites ce que je vous ai demandé de faire. Et donc vous entrez en relation avec moi. Quand vous faites ce que quelqu'un vous a demandé de faire, vous entrez en relation avec la personne qui vous l'a demandé. Entrer en relation avec Hachem, c'est devenu possible par le biais de ce qu'Hachem nous a demandé. Et par le biais de la Torah, parce que la Torah, c'est la parole d'Hachem, si on veut, et donc on peut connaître Hachem, si on veut parler comme ça, en connaissant la Torah, et en regardant le monde aussi, en regardant les beautés du monde, la complexité, etc. Voilà la grandeur d'Hachem. Donc Hachem il a voulu ici introduire la nécessité. Donc ici, Matan Torah, la Torah qui est donnée, là, qui est là, c'est pas quelque chose, c'est pas simplement un cadeau. D'accord? C'est la condition de notre existence. Vous entendez bien dans ce midrash. C'est la Torah qui obtient qu'Hachem nous donne une seconde chance. On est mort. C'est la Torah qui intervient et qui obtient qu'Hachem nous redonne nos âmes. Donc la Torah n'est pas, je te donne un truc, voilà, super, très beau, magnifique. Mais c'est, je te donne quelque chose, en fait, qui est la condition sine qua non ici pour que tu vives. Tu es mort. La Torah sait ce qui permet ou qui permet la résurrection. Kriyatametim, ça n'est possible que parce que la Torah intervient. Sans la Torah, il n'y a pas de Kriyatametim. C'est pas que Hachem ne pouvait pas faire Kriyatametim, mais il ne l'a pas fait. Nous, on ne connaît pas le triatametim qui ne se passe pas par la Torah. C'est écrit dans ce Midrash, en tout cas.
Est-ce que ça veut dire que c'est possible de voir la science, c'est
Le
de voir la vie, est-ce que ça veut dire qu'il y a la télévision plutôt par l'avance ou
oui,
là on a l'exemple sur la plateforme, est-ce que la Torah elle agit tous les jours pour ressortir sur le.
La Torah elle-même, elle a été donnée au Sinaï. Mais toi, tu dois considérer que tu la reçois tous les jours à nouveau. Chol yom yu be'enecha kechadashim. Toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est quelque chose que je viens de recevoir maintenant. Donc c'est vrai que il y a eu un moment où on l'avait pas et maintenant on l'a. Et maintenant qu'on l'a, on l'a de façon continue. Mais c'est à nous à faire en sorte que c'est pas que la Torah elle disparaît si on veut puis ensuite elle réapparaît. C'est nous qui devons faire Yubenecha Kifadashim. C'est-à-dire tu dois considérer que la Torah est quelque chose qui t'est donné chaque jour à nouveau. Kol yom yu beinecha kichadashim. Toujours hayom, aujourd'hui. Misavcha hayom, aujourd'hui je te le donne. Mais c'est un travail humain.
Rav, j'ai une question.
Oui, j'imagine, oui.
vous avez dit que c'est la Torah qui nous fait, enfin, c'est Hachem qui nous ressuscite, mais ouais. Qui ressuscitait les Israël, mais que c'est par la Torah. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il nous ressuscitait les d'Israël pour recevoir la Torah, ou c'est la Torah est-ce qu'il est ressuscité pour qu'il la reçoive, ou est-ce que c'est plutôt le contraire, c'est la Torah qui fait qu'on ressuscite? Et ça, la deuxième chose, c'est, vous avez dit qu'il fallait du concret, qu'il demandait du concret, et que c'était pour les satisfaire qu'il avait donné du concret, mais on pourrait dire aussi qu'il était presque nécessaire qu'il meure pour être comme des hommes nouveaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait un reset et qu'on soit au même niveau que Adam Harishon.
D'une certaine manière, le clan d'Israël, il est déjà mort en Égypte. Puisqu'il est, il est né en Égypte. Donc, ça veut dire qu'il n'existait plus en Égypte. Il n'y avait pas de clan d'Israël en Égypte. En Égypte, il y a une famille qui est descendue. C'est une famille qui a explosé démographiquement, mais ça n'a pas fait un peuple. D'ailleurs, d'une certaine façon, dans les premiers éléments du Midrash qu'on est en train de faire, on pourrait presque tirer comme conclusion que on n'est pas vraiment fait pour, en tout cas pour être une nation, un État, tout comme ça. C'est pas sûr du tout que on soit fait pour ça. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, quoi, que de faire nation ou État, etc. Bon, mais ça, c'est un sujet pour soi. Mais la Torah, elle nous a été donnée, au moment où elle a été donnée, elle nous est apparue comme absolument fondamentale pour que nous vivions. C'est-à-dire, on nous a donné quelque chose qui est un élixir de vie, si vous voulez. Ça vient en même temps. Le don de la Torah vient en même temps que le fait que la Torah nous permette de revivre, en fait. On a dû faire l'expérience qu'on ne peut pas avoir de relation directe avec Hachem. On est obligé d'en passer par la Torah, sinon on meurt. Donc cette Torah qu'Hachem nous a donnée, c'est une Torah de vie, au sens évident du terme. Pas simplement c'est la Torah qui va te donner une vie future, te donner la vie au départ. La Torah qui nous a été donnée nous a en même temps donné la vie. Elle a obtenu qu'Hachem nous donne la vie. Mais bon, ça veut dire aussi que la relation directe avec Hachem sans le passage en la Torah est une relation mortifère pour les hommes. Nous ne pouvons pas vivre ça. Parce qu'on ne peut pas servir Hachem de façon complètement abstraite. Et le minimum, c'est-à-dire que nos yeux et nos oreilles expérimentent quelque chose d'Hachem, mais du coup, on en meurt. Et donc, le seul accès qu'on ait à la relation avec Hachem, c'est par le biais de la Torah. Là, du coup, hors de la Torah, il n'y a pas de salut, si vous voulez. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation avec Hachem. Et c'est pour ça que tous les autres, bon, ils passent par l'idolâtrie. Parce que c'est pas possible. Les Bnei Israël ils ne voulaient pas passer par l'idolâtrie, mais ils ont dit, mais quand même quelque chose d'un peu concret. Cette idée que y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à faire sans que automatiquement on tombe dans l'idolâtrie. Le veau d'or n'était pas une idole. Mais quand ils se sont demandé comment on lui fait jouer le rôle de Moshe, puisque le veau d'or, il était là pour remplacer Moshe Rabbeinu, donc ils ont pensé qu'il n'existait plus. Ils ont dit à Ish Moshe, on ne sait pas ce qui est devenu de lui. Et ils ont eu des hallucinations collectives, ils ont vu le cercueil de Moshe, etc. OK, il faut remplacer Moshe. Sans Moshe, on ne peut pas arriver. Donc, il faut le remplacer. OK, alors on a trouvé un truc, un machin qui est sorti du creuset, ici, qui avait une forme d'un taureau, d'un veau, si vous préférez. Et bon, mais il faut le faire jouer. Comment on fait pour lui faire jouer le rôle de c'est toi qui nous as sorti d'Égypte, s'il faut qu'il remplace Moshe, ben on n'a pas su quoi faire et du coup c'est devenu une idole. Plus tard, beaucoup plus tard, après le roi Shlomo, on s'en fout.
Poser une
Quand le fils
question
de
un
Shlomo
peu.
arrive sur le trône.
Ah, j'entends pas.
Quand le fils de Shlomo arrive sur le trône, on lui dit, tu sais, ton père, il nous a écrasés avec les impôts. Il faut que tu les allèges un peu. Il a dit, non seulement je ne les allège pas, mais je vais les alourdir. Et il a perdu 9 tribus et demie. s'appelle Rochovam, il s'est retrouvé avec Yehuda, Binyamin et la moitié de la tribu de Menaché. Les 9,5 sont donnés à quelqu'un d'autre. Vous imaginez? Il s'appelle Yerovam. Ça doit être une superstar pour qu'on lui donne 9 tribus, alors qu'il n'est même pas de la tribu royale. Il est de la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire de Yosef, en fait. Et on lui donne 9 tribus et demi. Et alors, après, il a un problème. Il a un problème parce que 3 fois par an, ses sujets à lui, son devenu Israël, ils doivent aller au Beth Amikdash qui est construit par Shlomo HaMelech et qui est sur le territoire de Rehovam, et sur le territoire de Yehuda et Binyamin. Et à côté du Beth Amikdash, il y a le palais de Rehovam. Ils peuvent pas aller là-bas sans saluer Rehovam. C'est pas possible. On peut pas entrer. Et si Yerovam, Hachem lui a donné ça, donc ça veut dire que c'est jouable. Il dit, mais pour moi, c'est insupportable. Je ne peux pas avoir mes sujets qui, 3 fois par an, vont aller faire allégeance à mon ennemi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il fait boucher les routes qui mènent à Jérusalem, qu'on ne puisse pas y aller, et il décide qu'il va faire des contre-fêtes de pèlerinage. Et il installe l'emblème de sa tribu, c'est-à-dire un taureau, puisque le taureau, c'est l'emblème de Yosef. Et lui, c'est le fils de Yosef, enfin, c'est la tribu d'Éphraïm, c'est le fils de Yosef. Il installe au nord et au sud de son royaume, 2 taureaux. Pas du tout les idoles, les emblèmes de la tribu. Et on va 2 fois par an, 3 fois par an, au lieu d'aller à Yerushalayim pour faire la mitzvah d'aller à la Régel, etc., on va aller honorer la tribu, honorer l'emblème de la tribu. Et Hachem lui dit, c'est pas possible, ça va pas marcher. Alors, Hachem lui dit, écoute, si tu renonces à ce funeste projet, alors, moi, dit Hachem, David et toi, on se promènera ensemble dans le Gan Eden. On le met à la même hauteur que la génération de son grand-père. David, c'est la génération de son grand-père. Alors, il dit, OK, mais qui va marcher devant, David ou moi? Ça veut dire, je veux bien m'écraser dans ce monde à la condition que dans le monde à venir, là où on marchera avec Hachem, c'est moi qui sois devant. Alors Hachem lui dit, si tu demandes déjà, ce ne sera pas toi. Alors il dit, alors dans ce cas-là, je fais les. Et il est devenu le roi idolâtre par excellence. Ça n'a pas marché, son truc. Ces taureaux sont devenus les idoles. Ce n'est pas possible de faire autrement. Pourtant, ce n'est pas parti pour être des idoles. Même honorer les emblèmes de la tribu, ça débouche sur l'idolâtrie. On ne peut pas honorer des trucs matériels et remplacer. C'est quand même, il y avait, quand tu mets ça, c'est le remplacement de la Aliyah de la Régel pour aller voir et être vu par Hachem. Donc quelque part, même si tu dis que c'est seulement honorer les emblèmes de la tribu, mais dans la tête des gens, ça remplace quoi? Ça remplace un lien à la règle. Donc au lieu d'aller. C'est tout à fait abstrait, un lien à la règle. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Le Beth Amikdash, mais ce n'est pas le Beth Amikdash qu'on va voir. C'est Hachem qu'on est censé aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Hachem, il n'est pas visible, hein?
Ah,
Marche que par la Torah. Oui.
j'ai une question un petit peu idiote, mais quand même,
Oh non.
Pourquoi ils ont fait un veau d'or? Ils auraient pu prendre quelqu'un qu'ils auraient considéré comme ayant du poids, proche de Moshe. Parce que là, ça semble
Si
presque.
vous y avez pensé, Bernard, si vous y avez pensé, eux aussi ils y ont pensé.
Bah oui. Donc, ah oui, mais
C'était
d'accord,
pas
mais. Oui, mais
possible.
là, c'est
C'était pas
presque.
possible.
Là, c'est ce que c'est
Parce que
écrit
tous
comme
les
si c'était.
gens, écoutez, c'était pas possible. Parce que tout le monde était sorti d'Égypte sous la direction de Moshe. Donc personne ne peut remplacer Moshe. Ils sont tous inférieurs à Moshe. On ne peut pas charger quelqu'un qui était sous la direction de Moshe de représenter Moshe.
Oui, mais
Pas
alors je sais bien qu'on est
possible.
3000 ans après. Oui, mais on est 3000 ans après. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est presque trop didactique le fait que 3000 ans après, on ne peut pas penser qu'il puisse faire un veau qui va remplacer un veau d'or qui
Mais
va remplacer un
pas
Moshe.
3000 ans après. De quoi
Comment?
parlez-vous là?
Comment? J'ai pas
Vous voulez
entendu.
dire de parler d'aujourd'hui? Faire aujourd'hui un veau?
Non, je sais bien
C'est quoi
qu'on
les
est
3000
3000 ans.
ans? C'est quoi 3000 ans? C'est la mort de Moshe. C'était hier. Moshe est mort. Dans leur idée, Moshe est disparu hier, avant-hier. On le remplace du jour au lendemain. Il n'y a pas, on ne peut pas. D'ailleurs, ils ont demandé à Aaron, fais-nous quelque chose. Ils n'ont pas dit, fais-nous un veau. Hein. J'ai sorti un taureau pour des raisons techniques. Mais c'est normal que ce soit sorti un taureau. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois.
Oui,
Parce qu'il n'y
oui,
avait que, y a que Yosef qui peut remplacer Moshe. L'emblème de Yosef. Parce qu'il faut avoir fait sortir les fils d'Israël d'Égypte, et Yosef, en les faisant entrer en Égypte, c'est le commencement de la sortie. Donc il n'y a que Yosef, donc son emblème, le taureau, qui peut marcher. Seulement, on ne sait pas comment lui donner le poids qu'avait Moshe. Comme c'est pas. Moshe Rabbeinu, il s'est toujours défendu pour qu'on ne le divinise pas. Le
Oui,
seul moment où
mais pareil.
il ne s'est pas défendu, c'est justement quand il est monté sur la montagne. Il ne s'est pas défendu, il n'était pas là. Alors ils l'ont divinisé. Ils l'ont divinisé puisqu'ils l'ont remplacé par quelque chose qui est devenu une divinité, une idole. Pourquoi on ne sait pas où il est enterré? Pour qu'on ne puisse pas l'adorer comme une idole. Bon, écoutez, il pleut ici, maintenant on arrête. Voilà. Il n'y aura pas de
Merci.
chiour. Attendez, non, c'est pas vrai. Si, il y aura le chiour de lundi prochain, il aura lieu, oui. Oh, oui, c'est juste. C'est jeudi qu'il n'y a pas de chiour. Ouais.
Merci,
Bonsoir.
Rav. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.